voix nue. Cette semaine, Jean-Marc Cantor rencontre Jack Lang. Ce soir, un enfant de la guerre.
Bonsoir Jack Lang.
Bonsoir.
En préparant cette émission, j'ai éprouvé de nombreuses difficultés à trouver un titre pertinent, un titre qui vous irait bien, qui vous collerait bien à la peau. Donc j'ai dû organiser quelques séances de brainstorming avec des amis. Et l'idée qui est venue, c'est Jack Lang, l'expression iconique de la culture. C'est complètement vous, ça, non?
C'est exagéré, parce que, certes, l'action que je mène depuis fort longtemps peuvent être parfois emblématiques, c'est vrai, parce qu'elles se trouvaient préfiguratrices ou à contre-courant. Et surtout, elles sont souvent, c'est mon tempérament, des actions positives, créatrices d'événements, de monuments, de réalisations. Bon, en même temps, les icônes sont nombreuses.
C'est quoi une icône, alors ?
C'est quelqu'un qui, je pense, rassemble de façon un peu syncrétique une certaine vision de la société.
Donc comme vous.
Si vous le jugez tel, alors je m'y rallie.
Vous êtes né le 2 septembre 1939 dans le département des Vosges, à Mirecourt, au sud de Nancy. Peut-on dire que vous êtes un enfant de la guerre ?
On peut le dire, puisque je suis né au lendemain de la déclaration de guerre. Et donc, mes premières années furent vécues au milieu de la guerre. D'abord dans cette région de Lorraine, puis ensuite nous étions réfugiés dans la région de Brive. En même temps, si vous voulez, quand on dit « enfant de la guerre », ça peut donner à penser qu'on a subi les crises et les fureurs, les douleurs et les horreurs. Un enfant ne ressent pas les choses de la même manière. D'ailleurs, la souffrance n'était pas à nos pas ou sous nos yeux, elle nous était rapportée. Et donc, malgré tout, il y a une certaine forme d'insouciance liée à l'enfance. Encore qu'il y ait eu deux ou trois événements tout de même marquants. Par exemple, ce jour où, au loin, passait un corbillard, on peut dire, transportant une personne qui était mort. Et ma mère m'a dit... Tu vois, si ton père avait été là, c'est lui qui aurait été tué à la place de ce monsieur. Alors ça vous marque quand même, ça. Ou bien encore, un jour, je me trouvais accueilli par une famille, et un beau matin, la milice est arrivée avec ses voitures Citroën noires, et les ont embarqués. Je me suis retrouvé tout seul dans leur maison. Bon. Ai-je souffert ou non, je n'en sais rien. C'était un étonnement surtout. Une autre fois, j'étais transporté là encore pour pouvoir être épargné à dos d'un vélo d'un village à un autre. Ou bien encore, nous nous sommes réfugiés dans un bourg au milieu de la forêt. Mais pour nous, enfants, c'était plus une aventure qu'un effroi.
Oui, mais vous réagissez comment ?
Disons-le, je crois me souvenir avec une certaine forme de sérénité. On ne ressent pas l'inquiétude comme le peut la ressentir un adulte. C'est une chose d'ailleurs que m'a dit un jour Françoise Dolto. On ne ressent l'idée réellement de la mort qu'à partir de 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Sauf quand on voit devant soi, évidemment, une personne tuée, assassinée ou disparaître.
Vous êtes l'aîné d'une famille composée de 5 enfants. Quels souvenirs et quelles relations avez-vous eu avec vos frères et sœurs ? Vous avez deux frères et deux sœurs ?
C'est une famille assez remuante, joyeuse, souvent heureuse. Bon, naturellement, il y a, comme dans toutes les familles, des petites bagarres secondaires. Et puis, comme j'étais déjà emporté par le démon du théâtre, j'ai invité mes frères et sœurs à composer avec moi des petits spectacles que nous offrions, si j'ose dire, à nos parents ou à nos copains. Des spectacles sans prétention. Un peu plus tard, avec l'âge de l'adolescence, les rapports parfois se sont tendus.
Et avec vos parents ?
Avec mes parents, ils ont été des rapports d'affection, de respect, d'amour. Mon père a disparu malheureusement quand j'avais, je crois, 15 ans. Mais ma mère donc s'est retrouvée seule avec ses enfants. Mes liens n'étaient pas seulement avec mes parents, mais avec mes grands-parents paternels. Peut-être nous étions plus proches encore d'eux.
Vos relations avec votre grand-père paternel se renforcent, s'intensifient ?
Exactement, il devient comme une sorte de père, ou de grand-oncle plutôt. On a des rapports libres et marqués par des conversations. J'avais, je crois, 16 ans peut-être, 17 ans, 18 ans, et nous parlions beaucoup de politique déjà, de la vie, de ses affaires. C'est quelqu'un qui était auto-construit, qui avait créé sa propre entreprise au début du siècle, et il avait l'âme d'un vrai chef d'entreprise et d'un patriarche.
Vous étiez le chouchou de votre grand-père ?
J'étais le chouchou parce que j'étais l'aîné.
Tout simplement.
Et en même temps, j'avais pour lui beaucoup de tendresse et d'affection, et j'aimais être avec lui. Et nous allions très souvent dans leur maison. Et j'étais très heureux. Et la maison de mes grands-parents était une maison sublime. Elle avait été conçue par des architectes et des artistes de l'école de Nancy. C'est-à-dire que du grenier à la cheminée, tout était façonné, dessiné, sculpté, construit par l'école de Majorelle ou de Prouvé. Rien n'échappait à leur talent. Et c'était une splendeur absolue. C'était la perfection de l'école de Nancy. Et donc la chambre qui m'était réservée était une chambre dessinée, construite dans l'esprit de l'école de Nancy.
Vous étiez déjà très sensible à l'art à cette époque ?
Naturellement, oui. En tout cas, au théâtre, oui, à la décoration, à l'environnement. Tout petit, mais je ne suis pas le seul exemple. Hein. J'aimais beaucoup le jeu, le théâtre, le cinéma. Et ma grand-mère paternelle m'a emmené au théâtre quand j'avais, je crois, 7 ans, 8 ans. Hein. C'était à Nancy, dans ce beau théâtre de la place Stanislas, tout de velours et or. Et j'ai découvert là mes premiers spectacles.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ces premiers spectacles que vous avez...
La magie. Je me souviens en particulier d'une opérette que je continue à aimer, même si je ne l'ai pas réentendue depuis, Le Pays du Sourire de Franz Lehár. C'est une magnifique opérette qui mériterait d'être rejouée aujourd'hui.
Votre grand-père meurt en 1964, vous avez 25 ans. Pour vous, c'est une terrible épreuve. Comment vous la surmontez ?
Non, c'est une épreuve, évidemment. Il était devenu le pilier central de la famille. Donc sa disparition a représenté un réel déchirement.
Plus important que celui de votre père ?
Peut-être plus pour les raisons que mon père, au fond, est mort quand j'étais plus jeune. Et donc, j'avais eu des rapports moindres avec lui, moins intenses, moins profonds, plus superficiels. Et avec l'âge, je me suis passionné pour des sujets multiples. Et donc j'ai tissé avec mon grand-père des liens, je crois, assez riches.
Quand vous dites avec l'âge, j'ai développé des centres d'intérêt multiples, ah oui. Vous pensez auxquels ?
Oui, si vous voulez, bon, avec l'âge, c'est-à-dire mes études, mes engagements civiques. Très tôt, je me suis passionné pour la vie collective et je me suis engagé notamment à lutter contre les guerres coloniales. Je devais avoir 16 ans peut-être, j'étais encore au lycée. Et avec mon grand-père, on parlait très souvent de la guerre d'Algérie, de la lutte du Maroc et de la Tunisie pour l'indépendance. Nous avions la même passion pour un homme qui, hélas, est trop oublié aujourd'hui, Pierre Mendès-France, qui a marqué une vraie rupture dans la conception de la politique. Donc par conséquent, mon propre paysage s'enrichissait de la familiarisation qui était la mienne avec la vie sociale et la vie politique et mes propres engagements civiques.
Comment se passait la religion à la maison ? Parce que vous avez une double culture, si j'ose dire. Vous êtes né d'un père juif et d'une mère catholique. Comment parlait-on de religion chez vous ?
On n'en parlait pas. Dieu ne faisait pas partie de nos conversations. Au demeurant, Ma mère, elle-même, appartenait à une famille non-croyante. Son père était un instituteur de l'école publique, et en Vendée, c'est beaucoup dire, il était l'envoyé du diable. Sa mère, la mère de ma mère, avait créé, je crois, la première loge féminine, la loge du droit humain, à Nancy. Mon grand-père aussi appartenait à la franc-maçonnerie, mon père de même, il était vénérable de la loge du Grand Orient de France. Donc, vous voyez, cette tradition, c'est une tradition républicaine, laïque, non-croyante. Et on peut le déplorer après coup, je n'ai reçu aucune éducation religieuse d'aucune sorte.
Avez-vous fait quelque chose après pour compenser cette absence d'éducation religieuse ?
Oui et non, c'est-à-dire que bon, je suis profondément athée, mais ma seule religion, c'est l'être humain. Et c'est la beauté du monde. En même temps, je suis triste parfois d'être totalement ignorant. Je me souviens d'ailleurs que François Mitterrand, qui lui avait une vraie éducation religieuse, connaissait par exemple la Bible sur le bout des doigts, et très souvent il me mettait en boîte en me disant « mais vous ne connaissez rien à ces textes admirables », et il me mettait en boîte en me disant « mais dis-moi combien... d'enfants avait Joseph. Il aimait beaucoup charrier les uns les autres sur leur ignorance ou leur connaissance, leur méconnaissance des grands textes religieux.
Mais par curiosité, vous les avez lus quand même.
Bien sûr, mais vous savez, quand vous n'avez pas été pénétré jeune par les rites, par les croyances, par les traditions, ça reste un peu extérieur. Justement. Ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui, plus tard, comme ministre de l'Éducation nationale, plaidera, avec le soutien de Régis Debray, pour que le fait religieux soit enseigné à l'école.
Pour revenir à votre scolarité, vous êtes un enfant plutôt doué, vous rentrez en sixième avec un an d'avance, et vous ratez cette sixième. Que se passe-t-il ?
Moi, vous êtes bien informé, là, je suis impressionné, vous êtes un véritable Sherlock Holmes. Ça. Oui, c'est vrai. Scolarité brillante à l'école primaire. À l'époque, je crois, un concours existait pour entrer en sixième. On m'a rapporté, est-ce vrai, que j'avais été le premier de l'académie ? Admettons. En tout cas, j'étais considéré comme un très bon élève. Et puis en sixième, patatras. Pourquoi ? Et d'ailleurs, j'y ai souvent songé, un peu plus tard, lorsque j'ai eu à m'occuper de ces questions d'éducation. Le passage de l'école à ce qu'on appelle aujourd'hui le collège est une épreuve pour les enfants. Vous passez d'un maître unique dans une classe unique à des maîtres multiples dans des lieux divers. Et ça peut provoquer une sorte de déstabilisation à laquelle on ne veille pas assez au moment de ce passage. Un même passage d'ailleurs se produit, moins fort, mais quand même, lorsque l'enfant passe, ou l'adolescent passe de la troisième à la seconde. Et un peu plus tard, d'ailleurs, du lycée à l'université. J'ai essayé, lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, de faciliter ces passages d'un cycle à un autre, d'une situation à une autre, qui est parfois vécue difficilement. Et je suis un exemple typique d'un enfant brillant à l'école, qui tout d'un coup est totalement déstabilisé par le lycée. J'ai été pris par un désir de chahut permanent qui a failli me valoir la mise à la porte.
Donc vos parents réagissent très rapidement et vous envoient en pension.
Très rapidement, ils attendent la fin de la sixième. Et je suis menacé d'expulsion. Et pour l'éviter, mes parents, en effet,
vous envoient dans ce collège
en sixième,
à Lunéville.
Au collège de Lunéville.
Vous passez deux ans.
Voilà.
Et vous dites que vous avez détesté ces deux années.
Pas détesté parce qu'elles m'ont donné quand même, elles m'ont remis à niveau, si j'ose dire. Elles m'ont donné le goût du travail, le goût de l'étude, le goût de l'apprentissage. Et en même temps, j'étais malheureux parce que j'étais coupé de mes copains, de mes parents, de mes frères et sœurs. Et je supportais assez mal cette vie d'internat. Bon, à l'époque, c'était des internats plus ou moins chauffés. On était 40 dans un dortoir, on se lavait à l'eau froide. Ce n'était pas drôle tous les jours.
Vous revenez donc au lycée Poincaré en classe de quatrième. Là, tout se passe bien. La quatrième, la troisième, tout se passe bien. et rebelote en seconde.
Ça confirme le premier trimestre. Je vous disais, rebelote, vous avez raison, rebelote et en seconde, peut-être parce que j'étais trop ambitieux aussi, j'ai voulu entrer dans une section qui n'était pas faite pour moi, c'est la section C, je crois, c'était
scientifique
et littéraire. Bon, et là, j'ai dérapé. À nouveau, le goût du chahut m'a repris. Et j'ai eu deux blâmes successifs. Et finalement, je me suis ressaisi et je suis allé trouver, je crois, le proviseur pour lui dire « Donnez-moi une chance. Permettez-moi de changer de filière. » Il a accepté. Et le trimestre suivant, la confiance qu'il m'a donnée a été fantastique. J'ai obtenu ce qu'on appelait à l'époque les félicitations.
Les deux trimestres.
Deux trimestres. Non, ce qui prouve que, si vous voulez, indépendamment de ma personne, il faut faciliter les passages d'une filière à une autre. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la réforme du lycée, la question se pose autrement. Mais ça se pose dans les universités.
Mais comment êtes-vous arrivé à convaincre le proviseur à changer comme ça en plein d'année
Surtout que ce n'était pas la pratique habituelle. Une fois qu'on était embarqué dans une...
Et ça ne l'est toujours pas.
Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, c'est très difficile. Donc la confiance, ça compte. L'encouragement, ça compte. L'attention, la tendresse. Je pense que parfois notre système, pas seulement scolaire, manque de cette tendresse, de cette forme, disons, d'amour et d'attention. Mais les professeurs n'ont pas toujours le temps, ils sont submergés, ils sont de plus en plus soumis à des règles administratives.
Voilà. Donc vous arrivez à changer d'orientation, vous obtenez votre bac en 1957, vous inscrivez à la faculté de droit à Nancy et au centre universitaire d'études politiques qui dépend de Sciences Po Paris. Pourquoi vous faites ce choix ?
Je n'en sais rien. Disons que lorsque j'étais... Vous savez, c'était une époque où nous avions la chance de regarder la vie avec optimisme. Et bon, comme j'appartenais par ailleurs à une famille qui n'était pas la plus pauvre... Je pouvais me permettre de tâtonner, d'hésiter, de m'interroger. Ce qui me passionnait surtout, c'était le théâtre. Les études étaient là parce qu'elles devaient s'accomplir. Et je crois que c'est ma mère qui avait rêvé...
Que vous soyez ambassadeur ?
Oui, c'est ça. Elle pensait que je pourrais être un diplomate. Elle se trompait un peu.
Pourquoi ?
Parce que j'aurais été un mauvais ambassadeur. Diplomate pour résoudre des questions, oui, mais diplomate pour représenter dans une fonction purement officielle, non. Ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon tempérament, mais enfin, peu importe. Donc du coup, je crois que c'est elle qui a eu cette idée de m'inscrire d'abord au Centre universitaire d'études politiques à Nancy, lié en effet à Sciences Po. C'était à la faculté de droit. Je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas entreprendre simultanément les études de droit et les études de sciences politiques. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. Et là encore, je m'aperçois que j'ai réussi des choses à ce moment-là que j'ai raté au lycée.
Et ça me, par exemple,
ça entretient en moi cette idée qu'on doit donner aux jeunes, à tous les étages de la vie, non pas une chance, mais deux chances, trois chances, 10 chances, parce que on peut rebondir. Par exemple, l'histoire m'ennuyait profondément au lycée. Et j'ai eu généralement d'assez mauvaises notes, même au baccalauréat. L'histoire et la géographie m'ennuyaient prodigieusement. Et voilà que, dans ce centre universitaire d'études politiques, je tombe sur un professeur d'histoire lumineux, passionnant, merveilleux conteur, délicieux professeur. Et ce fut pour moi une révélation. Et depuis lors, je suis amoureux de l'histoire et de la géographie. Vous voyez, rien n'est irrémédiable, rien n'est définitivement écrit. Et le droit, je ne savais rien du droit. C'était un univers totalement inconnu.
Étranger.
Et alors, j'ai été fasciné. Fasciné, là encore, par les professeurs. Les professeurs.
Donc, pas la matière, c'est professeurs, mais du coup, c'est l'humain qui vous amène à aimer.
Pour une part, non, parce que dans les matières, il y avait notamment des matières liées à la politique, indirectement, qui m'intéressait. Donc, en particulier, le droit constitutionnel et les institutions politiques. L'histoire du droit. Et les professeurs. Les professeurs fabuleux, les professeurs eux aussi lumineux. et qui m'ont rendu amoureux du droit et de l'université. Voilà, et donc j'ai suivi ce double chemin, sciences politiques, droit.
Alors vous êtes tombé tellement amoureux de cette université que vous décidez de faire une carrière à l'université.
Un peu plus tard, d'abord je vais à Paris faire Sciences Po rue Saint-Guillaume, et puis je suis revenu à Nancy, j'ai fait 2 diplômes d'études supérieures de droit, et j'ai appris chemin faisant qu'on pouvait éventuellement devenir professeur de droit. Et comme je rêvais, étant lycéen encore, de devenir un jour professeur de langue, à ce moment-là, j'aimais le latin, j'aimais les langues vivantes, je me suis dit que professeur de droit, ce ne serait pas si mal. Et donc je me suis embarqué dans cette direction, sans trop y croire vraiment, parce que ça paraissait lointain et inaccessible, un concours national, quelques postes chaque année, mais je me suis accroché.
Alors que ça a été très rapide, votre ascension dans le milieu universitaire a été très rapide. Vous êtes devenu maître de conférence en 1971.
Oui.
Vous aviez 31 ans.
Ou d'autres que moi ont réussi plus rapidement, disons-le.
Vous devenez professeur titulaire de droit international en 1976.
Oui, peut-être, oui.
Vous devenez doyen de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques et économiques en 1977. Donc c'est un très beau parcours universitaire. Vous dites d'autres sont devenus maîtres de conférences plus rapidement que moi, mais d'autres sont devenus maîtres de conférences plus tard que vous aussi.
Oui.
Et d'autres sont devenus doyens d'une unité d'enseignement bien plus tard que vous.
Bon, ne chipotons pas. En plus, moi, je n'ai absolument pas la mémoire exacte des dates. Vous me les rappelez à l'instant. Je n'ai pas dans ma tête les différentes périodes. Mais disons que c'est vrai qu'à ce moment-là, ça paraissait inhabituel de devenir doyen d'une faculté de droit aussi jeune. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus habituel, heureusement.
Vous faites une thèse de doctorat sur le thème « L'État et le théâtre ». Vous réunissez 2 domaines qui vous passionnent, le droit et le théâtre. C'est ça ?
Oui, on peut dire ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit 2 diplômes. 2 diplômes d'études supérieures portant chacun sur une matière artistique. L'un sur les conservatoires de musique, l'autre sur le dramaturge irlandais Sean O'Cassy. Parce que ça me permettait peut-être d'aller plus vite ou de moins m'ennuyer et de découvrir de plus près une matière qui me passionnait, l'œuvre de Sean O'Cassy et l'organisation administrative des conservatoires de musique. Pourquoi ai-je choisi ce sujet, l'État et le théâtre ? Pour gagner du temps, j'allais dire. J'avais entrepris, par une sorte de folie personnelle, une première recherche qui portait sur un sujet extrêmement difficile, les sources soviétiques du droit international. Comme je connaissais un peu le russe, que j'avais appris un peu seul, je me suis dit, je vais me débrouiller, finalement c'était très difficile. Et j'ai, avant que la catastrophe ne se produise, changé et décidé de choisir un sujet plus immédiatement accessible à mes faibles capacités.
Donc en janvier 1967, vous obtenez votre doctorat de droit, et puis vous inscrivez à l'agrégation. Comment se passe ce concours ?
J'ai travaillé comme un fou. Je voulais absolument être agrégé de droit. C'était réellement quelque chose qui pour moi était vital. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'aimais et j'aime toujours passionnément l'enseignement. J'aimais et j'aime toujours passionnément le droit et la réflexion intellectuelle. Et enfin, et peut-être surtout, l'agrégation de droit pour moi était un passeport pour la liberté. Quand vous êtes agrégé de droit, vous êtes aussitôt professeur, indépendant, libre, sans subir aucune tutelle. Et s'il y a dans ma vie une ligne de force, c'est cet désir personnel, peut-être un peu trop égotique, ou un peu trop intime, ou un peu trop personnel, d'être libre, de ne jamais, jamais dépendre de personne, de ne jamais subir une instruction, de ne jamais dépendre matériellement, intellectuellement ou physiquement de qui que ce soit la famille ou l'armée ou l'administration ou un chef d'entreprise. Donc, d'une certaine manière, à ce moment-là, j'accomplissais un idéal de vie, être libre, 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 libre.
Et pourtant, vous avez été à plusieurs reprises dépendant de d'autres personnes.
Non, pas vraiment. Disons que il y a indépendance et indépendance. Par exemple, ministre de la République pendant 12 ans, je me suis senti constamment libre. Pourquoi ? D'abord, on m'accordait la confiance, François Mitterrand pour la culture, Lionel Jospin pour l'éducation. Et surtout, lorsqu'il y avait alors des exigences collectives, j'étais en harmonie avec cette politique nationale. Vous pouvez être à la fois libre et membre d'une équipe. Et j'aime les équipes aussi. J'aime animer les équipes ou faire partie d'une équipe. Ce n'est pas incompatible. Par contre, je ne supporte pas intellectuellement ou physiquement même la tutelle de qui que ce soit.
Et les autres supportent votre tutelle ?
J'essaie de l'exercer de façon, honnête, respectueuse. Je pense qu'il y a une manière de diriger, puisqu'il s'agit de diriger un ministère, ou de diriger l'Institut du monde arabe, ou de diriger une faculté de droit, ou de diriger une ville, j'ai été le maire de Blois, en associant les personnes. Et j'en ai besoin d'ailleurs. Je pense que, si je réfléchis bien, beaucoup des décisions qu'on juge positives, prises par moi comme ministre, sont le fruit de délibérations collectives ou de conseils particuliers de tel ou tel collaborateur. On peut être à la fois libre et désireux de participer à une équipe créative, une équipe brillante, une équipe d'action.
Libre aussi.
Libre aussi.
Jack Lang, docteur en droit, diplômé de Sciences Politiques Paris, agrégé de droit public et de sciences politiques, mais pas que. Nous nous retrouvons demain pour voir et comprendre ce qui se cache derrière ce « mais pas que ». Bonsoir Jack Lang et à demain.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Marc Crantor avec Jack Lang. À voix nue, réalisation Marie Placet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.